Radio Okapi. Le journal de Pascal Masserica. Okapi.
Les titres ce midi au Sud Kivu, réédition hier du chef Mai Mai Rayam Kombozi qui opérait dans le territoire de Walungu. Maeshe Karasha et une quarantaine de ses combattants tous armés se sont rendus au FRDC. Un geste est salué par la société civile de la contrée. La RDC va bientôt bénéficier des fonds carbone pour ses efforts dans la lutte contre le changement climatique, annonce la coordination nationale RED à l'issue de la 9e session du comité des participants tenue à Bruxelles. Poursuite au Katanga de la réhabilitation du grand laboratoire de Lubumbashi, aussitôt remis en état, ce bâtiment va contribuer à améliorer la qualité des soins afin d'aboutir à une génération sans sida à l'horizon 2030. Madame, Messieurs, bonjour. Au Sud Kivu, réédition hier du chef Mai Mai Rayam Kombozi dans la localité de Nzibira, un groupement de Moulamba, territoire de Walungu. Maeshe Kahasha s'est rendu au FRDC avec lui une quarantaine de ses combattants, tous armés. Pour la société civile de Walungu, il s'agit d'un pas vers la restauration de la paix dans cette partie de la province. C'est ce que nous raconte à Bukavu Jean Kassami.
Plusieurs observateurs au Sud Kivu pensent que la reddition de Maeshe est un signe que les groupes armés locaux sont finalement convaincus de la détermination des FARDC à les traquer, surtout que la décision de Maeshe de se rendre aux forces régulières intervient quelques semaines après la rencontre avec les coordonnateurs de l'unité des armements, démobilisation et réinsertion des DR. Le général Delphé Kahimbi multiplie des rencontres avec plusieurs seigneurs de guerre réfracteurs au processus de réintégration. Il y a une semaine, Delphin Kaimbi s'était entretenu avec Maeshe à Lubimbe Premier, non loin de Busolo où se situe l'état-major des combattants Rayam Kombozi. Il avait sensibilisé Maeshe Karasha sur la nécessité de réintégrer les FRDC. Nos sources de la 10e région militaire indiquent que Maeshe et ses 45 combattants se trouvent actuellement à l'état-major du 1002e régiment en Zibira, chacun en possession de son arme sous les regards vigilants des éléments FRDC. Il ne reste qu'à leur indiquer les sites de regroupement où ils pourront être rejoints par d'autres combattants qui les désirent. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu voisin, un mouvement important des populations est observé depuis une semaine dans le territoire de Walikale. Plusieurs familles abandonnent leur village fuyant d'éventuels affrontements entre les FRDC et les miliciens de Nduma Defense of Congo de Tcheka. Le porte-parole militaire de la province appelle la population au calme. D'autres précisions dans cette correspondance de Gisèle Cage.
Ces mouvements de population sont observés à Kibua, Kalonge, Kibati, Amira notamment, à plus de 80 km au sud de Walikale Centre, sur l'axe Walikale-Goma. Selon la police sur place, ces déplacés trouvent refuge depuis une semaine en Pofi, Mutakato, Mubi, Kachebere et dans la cité de Walikale où ils sont dans des familles d'accueil. Leur nombre n'est pas encore connu, mais la société civile de Walikale signale que ce sont des familles entières qui se déplacent avec leurs biens essentiels. Elle cherche à se mettre à l'abri en cas de nouveaux affrontements. C'est depuis plusieurs jours que les forces armées de la RDC planifient des opérations de grande envergure à Walikale contre tous les groupes armés récalcitrants au processus des D3R du gouvernement congolais. Tcheka et ses hommes occupent à eux seuls presque quatre groupements du territoire de Walikale, dont Utunda, Luberi, Kiyana et une partie de Kisimba. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole militaire au Nord Kivu, rassure que des mesures de protection des civils sont déjà envisagées par les FARDC. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Autre nouvelle, la République démocratique du Congo va bénéficier bientôt des fonds carbone pour ses efforts dans la lutte contre le changement climatique. Annonce à Kinshasa la coordination nationale RED à l'issue de la 9e session du comité des participants tenue du 11 au 19 avril à Bruxelles en Belgique. C'est ce qui ressort de la restitution faite ce vendredi par la coordination nationale RED après la 9e session du comité des participants tenue à Bruxelles du 9 au 11 avril. Qu'est-ce qu'un crédit carbone ? Tentative de réponse avec vous, Jacques-Yves Molima.
Le crédit carbone est une compensation financière que versent les pays industrialisés qui polluent l'environnement. Et ce sont les pays en voie de développement très avancés dans le processus de réduction des émissions grâce à leurs forêts qui en sont bénéficiaires. Il s'agit donc d'un achat de droits de polluer. C'est là d'autant plus que les usines des pays pollueurs consomment une grande quantité de carbone. Notons qu'il existe déjà au monde des pays qui bénéficient du crédit carbone. C'est notamment l'Indonésie et le Brésil qui ont reçu de la Norvège du crédit carbone d'un montant d'1 milliard de dollars dans le cadre du projet RED. En Afrique, toujours dans le cadre du projet RED, la Tanzanie a reçu pour elle seule 100 millions de dollars américains. La RDC, qui abrite la plus grande forêt au monde après l'Amazonie, ne bénéficie pas encore du crédit carbone, malgré son espace forestier qui constitue une solution au changement climatique. Son admission au fonds carbone de la Banque mondiale lui permettra de présenter donc des projets pour bénéficier d'un financement important.
L'actualité, c'est aussi le Kasaï oriental où les chercheurs du secteur agricole ont retenu le maïs et le manioc comme culture essentielle pour cette province. C'est à l'issue de l'atelier sur la détermination des priorités agricoles organisé par l'Institut international de l'agriculture tropicale. L'objectif est d'améliorer la production agricole. En Bujima, il est compte rendu de François Tibenji.
Le maïs et le manioc sont retenus comme priorité au regard de leur importance dans la province. Elles constituent des cultures principales qui sont cultivées par un grand nombre d'agriculteurs. Et la volaille y est aussi pratiquée. Mais du point de vue production agricole, il y a des contraintes que rencontrent les paysans. Olivier Moulamba, directeur de l'INERANG à Magica.
Il y a les maladies, il y a la fertilité du sol. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le sol soit fertile? Est-ce que ce sont des variétés résistantes qu'il faut trouver? Est-ce que ce sont des produits qu'il faut trouver? Et dès qu'on a ça, on propose aux paysans. Ailleurs, il y a des variétés qui vous donnent 8 tonnes, pendant que notre paysan il produit 800 kilos.
Les 32 participants qui sont de la faculté de l'agronomie de l'université officielle de Mbujimayi, des ONGD, de l'inspection provinciale de l'agriculture et de l'INERANG à Magica estiment que les 60 000 dollars que le gouvernement disponibilise pour subventionner l'agriculture par des recherches dans ces projets de redynamisation de l'agriculture en province, ce n'est pas suffisant, mais vu le contexte, c'est un pas. Professeur Moïse Kalambayi.
Un montant de 60 000 dollars qui seront libérés progressivement, c'est très bien. Mais vous devez savoir qu'il y a combien de chercheurs? Est-ce que ces recherches-là ne vont pas engloutir tous ces montants-là à un coup? Ça sont des questions que nous devons nous poser.
L'objectif est d'améliorer la production agricole et réduire la pauvreté du paysan. Mbujimayi, François Tibenji, Radio Okapi.
Et puis au Katanga, le bâtiment du grand laboratoire de Lubumbashi est en pleine réhabilitation depuis le début de la semaine. C'est notamment l'aile qui abrite le programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissible. Ce travail consiste en la remise à niveau des bâtiments, l'équipement ainsi que le renforcement des capacités des techniciens laboratoires. Objectif visé, améliorer la qualité des soins afin d'aboutir à une génération sans sida à l'horizon 2030. Un reportage à Lubumbashi de Karine Topé.
Selon le directeur de cette structure sanitaire provinciale, Joël Condé, le grand laboratoire de Lubumbashi, dit grand labo, est l'épine dorsale de la santé publique au Katanga. Créé depuis l'époque coloniale, il a plusieurs vocations, notamment la santé publique, la surveillance épidémiologique, le diagnostic biologique et la recherche. Hormis ses missions traditionnelles, ce labo dispose aussi de plusieurs autres services, comme le laboratoire de la cellule familiale, coordonné par le PNLS, le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. C'est ce service qui est en pleine réhabilitation. Les travaux consistent au rafraîchissement des murs, au carrelage, la séparation des cellules servant de salle d'analyse. Travaux financés par le CDC, PEPFAR. Docteur Franck Fouamba, coordonnateur du PNLS, revient sur l'importance de ce service.
Aujourd'hui, pour poser le diagnostic précoce de l'infection à VIH des enfants, on est obligé de préparer des IPS, des colonies jusqu'à Kinshasa, par exemple, ou des pèlerinages jusqu'à Kinshasa, ce qui n'est pas très aisé. On voudrait que tout cela arrive carrément à Lubumbashi pour un premier temps.
Les travaux vont s'effectuer sur 80 jours, mais le coût global du financement n'a pas été révélé. Lubumbashi, Karine Topéridassi, Radio Okapi.
Terminons par la province orientale où les cérémonies liées à la célébration du jeudi et vendredi saint n'ont pas eu lieu à la paroisse Kiwanuka de la cité de Bouta, située à 324 km au nord de Kisangani. En cause, les portes de l'église sont fermées depuis 3 semaines par les chrétiens de la paroisse. Ces derniers sont toujours opposés à la réouverture de l'église tant que le curé de cette paroisse est suspendu par l'évêque. Hier vendredi saint, une vive tension a prévalu pendant pendant toute la journée à la paroisse Kiwanuka. On fait le point avec vous, Jacques Mukonkole.
Cette tension, selon des témoins sur place, est une conséquence d'un communiqué radiodiffusé de l'évêque du diocèse de Bouta, appelant les chrétiens de la paroisse Kiwanuka à participer au chemin de la croix qu'il devait présider dans cette paroisse à partir de 14h locales. Les fidèles venus nombreux de la matinée ont commencé à scander des chansons. Ils ont aussi renforcé les pierres devant les portes de l'église pour y empêcher tout accès. Au regard de la tension qui a prévalu, le commissaire de diocèse du Bazuélé a réquisitionné la police qui a été déployée aux alentours de la paroisse pour assurer l'ordre public. Rappelons que mercredi dernier, l'évêque de Bouta et les représentants de la commission des géants de la paroisse Kiwanuka se sont séparés en queue de poisson au cours d'une rencontre entre les deux parties. Alors que l'évêque maintient la suspension du curé pour une année ferme, les fidèles de la paroisse, eux, conditionnent la levée des barricades devant l'église par l'annulation de la suspension qui frappe leur curé. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 12h10, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Martin Seboudjangwe et Suzanne Zobondra qui m'ont aidé à le présenter.
Okapi. Okapi. Radio. Okapi.